Tantôt, on parlait que c'est important de stimuler notre imagination.
Oui.
On va le faire un peu, là, mais sans partir dans des grandes affaires de mythes et légendes. On va essayer de le faire de façon le plus scientifique, réaliste possible. Mais nous allons parler d'un sujet que j'aborde. Plein de gens aiment ça. Est-ce qu'il y a de la vie intelligente ailleurs que sur la Terre?
La fameuse question.
Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Ça, c'est une partie de la question. La deuxième, c'est est-ce qu'on va être en mesure un jour de communiquer avec eux? C'est bien beau de dire certaines hypothèses, ah, peut-être, oui, mais est-ce qu'on peut envoyer un espèce de signal radio? Est-ce qu'on peut entrer en contact avec une civilisation extraterrestre? Il y a toutes sortes de documents d'informations qui circulent là-dessus, mais récemment, il y a de quoi de scientifique qui a été publié. Je vais essayer de vous le résumer, puis avec ma prochaine invitée, on va essayer de garder ça le plus simple possible, là, parce qu'il y a là-dedans les affaires comme l'équation de Drake. Là.
Oui.
Non, c'est pas une nouvelle chanson du rappeur de Toronto. Là.
Il chante des maths maintenant.
C'est complexe un peu, mais bref, je vous le dis parce que c'est le prétexte. C'est pas le prétexte, c'est ce qui nous a fait penser d'aller rejoindre ma prochaine invitée puis en parler. C'était intéressant. Des nouveaux calculs scientifiques démontreraient qu'il pourrait y avoir entre 30 et 200, dépendamment, là, civilisations extraterrestres.
Dans notre galaxie seulement.
Dans notre galaxie, oui. Tu fais bien de le mentionner.
Parce qu'il y en a deux ou trois des galaxies dans l'univers.
Quelques-unes.
Je sais. Alors, sur des exoplanètes, la vie aurait pu apparaître puis ressembler à ce qu'on vit là. Maintenant, ils sont rendus où? Est-ce qu'on peut communiquer? Est-ce vraiment plausible? D'où ça sort tout ça? On rejoint Frédéric Baron. Elle est enseignante professeure à l'Université de Montréal, experte en exoplanètes et les conférencières également. Madame Baron, bonjour.
Bonjour, je suis chargée de cours à l'Université de Montréal.
Je précise donc, merci. Merci, chargée de cours. Madame Baron, quand vous voyez cette nouvelle-là, on va partir avec ça, là. Pour vous, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau là-dedans ou c'était un peu déjà connu, c'est des probabilités? Parlez-moi un peu de cette nouvelle-là comme telle, est-ce que ça change de quoi?
Mais comme vous avez dit, hein, ça provient de cette fameuse équation de Drake, qui est l'équation qui a été posée dans les années 60, donc c'est pas récent, cette idée-là d'essayer d'évaluer le nombre de civilisations extraterrestres intelligentes avec lesquelles on pourrait communiquer. Ce qui est nouveau, c'est que depuis, la science a évolué, entre autres la science de la recherche d'exoplanètes, ces planètes qui sont autour de d'autres étoiles que notre Soleil. Donc on a une meilleure compréhension de ça à l'intérieur de notre propre galaxie, ce qui nous permet de mieux évaluer le résultat de l'équation de Drake. Donc c'est un exercice assez intéressant à réaliser, je pense.
OK, mais on voit que l'échelle est belle. Je veux dire, il y a quand même un range en bon québécois. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais on dit pas peut-être une trentaine ou peut-être 200. Fait que ça demeure encore assez flou comme évaluation. Là. Il se base sur quoi?
C'est tout à fait. Ça reste très flou. En fait, c'est entre 4 à 211.
OK.
Donc, on reste assez flou. Et puis, c'est très flou parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas dans cette fameuse équation de Drake. On sait pas exactement, ça prend combien de temps pour que la vie apparaisse sur une planète. Donc, dans l'article scientifique, les astronomes ont estimé que c'était comme sur la planète Terre. À peu près 5 milliards d'années avant que la vie intelligente apparaisse. Alors, okay. L'âge de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années, donc on arrondit à 5 milliards d'années. Mais ça, c'est la vie telle qu'on la connaît. Et la seule vie qu'on connaît, ben, elle existe sur la Terre. Donc, on se base sur ce qu'on connaît. Évidemment, ça nous fait des résultats qui sont très variables, parce qu'on connaît seulement, on a seulement un point. On a seulement le point de la Terre.
On n'a pas d'autres éléments de comparaison, effectivement. Fait qu'on se base sur notre expérience. Mais on entend dire souvent, là, par certains, là, que l'apparition de la vie sur la Terre, c'est quasiment un miracle. Que tu déplaces une petite virgule sur telle équation ou ailleurs. Tu changes un petit peu les planètes, la distance entre le Soleil. Je résume ça un peu dans mes mots, mais on s'est longtemps fait dire par des scientifiques, oubliez ça, c'est quasiment impossible qu'il y ait de la vie qui apparaisse ailleurs sur une autre planète. Est-ce que c'est le fait, si on change d'idée un peu, puis on devient plus optimiste, est-ce que c'est le fait qu'on se rend compte qu'il y a plus de planètes ou plus de galaxies ou encore plus qu'on pensait au début?
Mais pour les planètes, c'est très vrai. Hein? Il y a 30 ans, on se posait la question combien existe-t-il de planètes? On aurait dit 9. Hein? Il y a 30 ans, Pluton, c'était une planète. Bon, maintenant, dans notre système solaire, on a plus de planètes et on connaît maintenant plus de 4000 exoplanètes. Et on estime que dans une galaxie seulement, on aurait 6 millions même 6 milliards de planètes qui ressemblent à la Terre. Donc, si on a 6 milliards de planètes qui ressemblent à la Terre, une certaine quantité d'entre elles, quand même une bonne proportion, vont être juste à la bonne distance de leur étoile pour que s'il y a de l'eau, l'eau soit liquide.
Ouais,
c'est important pour la vie telle qu'on la connaît. On veut de l'eau liquide. Mais ça pourrait montrer que la vie telle qu'on la connaît sur Terre aurait des bonnes chances d'exister ailleurs.
OK, donc les...
Mais reste qu'en effet, on ne sait pas très bien comment la vie est apparue sur la Terre. Donc, on a deux hypothèses. Soit la vie, c'est quelque chose de rare. Et ce qu'on a sur la Terre, c'est quelque chose de rare. Donc, il n'y en a peut-être pas beaucoup dans notre galaxie, dans notre univers. Bien, la vie, c'est quelque chose d'assez commun, mais il peut y avoir plusieurs obstacles qui l'empêchent d'arriver à un niveau de vie intelligent. Ou peut-être que nous, on n'a pas encore passé cet obstacle-là. Ça fait seulement à peu près 100 ans qu'on émet des ondes électromagnétiques qui pourraient être écoutées par des extraterrestres ailleurs sur nos planètes.
Ouais,
c'est pas très long.
C'est récent, c'est donc, le fameux programme SETI. J'aimerais ça que vous nous en parliez un peu, parce que là, je comprends bien. Les paramètres d'apparition de la vie sur Terre, ça demeure encore quelque chose, vous l'avez dit, c'est rare, il y a plusieurs conditions, mais plus on étend notre champ là, de vision par rapport aux planètes, aux exoplanètes, ben là, plus il y en a, plus il y a de chances que la vie apparaisse. Encore maintenant, la grande question que les gens se posent, est-ce qu'on pourrait un jour communiquer avec ces gens-là? Il y a le programme SETI, il y a toutes sortes d'initiatives. Est-ce que ça avance, ça? Parce que moi, je me souviens là, depuis le temps que je m'intéresse un peu à ça, qu'on voit des photos d'un immense radar, puis là, on sait qu'il y a des signaux qui sont envoyés de la Terre dans l'espoir qu'une civilisation extraterrestre reçoive ça. Est-ce que, mais ça remonte quand même, vous l'avez dit, un certain nombre d'années, est-ce qu'il y a des développements là-dedans un peu?
Le SETI, ça fait plus de 90 ans déjà. On essaie soit de communiquer avec des extraterrestres ou d'entendre des communications. Parce qu'on peut aussi, nous, par exemple, on émet des communications dans l'espace de façon, même sans s'en rendre compte, là. À partir du moment où on a une onde électromagnétique qui quitte la Terre, qui s'en va dans l'espace, on fait un peu de la fission, peu importe. On le fait sans s'en rendre compte. Donc ça pourrait être perçu par une civilisation, mais il faut qu'elle ait le temps de se rendre. C'est une question de distance ici. On habite dans la Voie lactée, notre galaxie. Notre galaxie, elle fait 100 000 années-lumière de l'art. Donc ça prend 100 000 ans à la lumière pour traverser d'un côté à l'autre. C'est très grand. Si on pense à l'étoile la plus près du Soleil, elle est à 4 années-lumière. Ça va, ça prend 4 ans. On fait une conversation, c'est 4 ans, j'envoie mon message, mon courrier, mon message. Et puis ensuite, ça me prend 4 ans pour communiquer à la vitesse de la lumière. Dans l'article dont on discute aujourd'hui, les auteurs suggèrent que la communication intelligente la plus près serait à 17 000 années-lumière en moyenne.
Ça fait un petit délai pour la conversation.
Ça fait un gros délai. Là,
la réponse n'arrivera pas tout de suite. Non.
C'est ça. Surtout si on place ça un peu en imaginant la civilisation humaine, ça fait 100 ans qu'on peut communiquer, et ça fait seulement 2000 ans qu'on peut écrire. On parle d'un message qui prendrait 7000 ans à lire. Donc, c'est ça le problème avec les civilisations aussi. C'est très possible qu'il y ait de la vie intelligente, mais c'est tellement grand, juste notre galaxie.
Ben oui.
Ouais. Ça joue vraiment contre nous.
Fait que ça va être je comprends, parce qu'on ramène tout le temps ça à notre échelle humaine. C'est pour nous autres, là, c'est 100 ans qui est à peu près, là, 100 ans, là, c'est une vie, là, c'est vraiment une longue vie, là. Je devrais peut-être plutôt dire 80, 82, mais on ramène ça à notre échelle, alors que vous avez parlé de l'âge de la Terre tantôt, etc. Peut-être que ce message-là, il peut quand même fonctionner, ça peut quand même être capté par une civilisation extraterrestre, mais on verra pas ça de notre vivant, mais ça pourrait arriver pareil, mais le temps que ça se rende et que ça revienne, ça va être long.
C'est ça. Puis après ça, on ne sait pas non plus combien de temps une civilisation peut vivre.
Oh.
Si on pense, par exemple, les dinosaures ont existé, ils ont été sont éteints. Il peut se passer des choses comme ça pour une civilisation, que ça soit lié à l'étoile. Un jour, notre étoile va mourir. Donc, même si on habite encore sur la Terre, ça ne va pas bien pour nous. C'est sûr qu'on disparaît. On peut s'auto-détruire. C'était une grande crainte, ça, dans les années 60-70, quand l'équation de Drake est sortie, liée à la guerre nucléaire. Est-ce qu'on va s'auto-détruire avant même de pouvoir avoir une chance de communiquer avec des civilisations extraterrestres? On a ce pouvoir-là aussi. Donc, on pourrait imaginer que d'autres civilisations extraterrestres ont aussi ce pouvoir-là de s'auto-détruire. Ça complique les communications.
Madame Baron, Stephen Hawking, avant son décès, avait dit que c'était une très, très mauvaise idée d'essayer de communiquer avec les civilisations extraterrestres. Puis il disait, s'il y a des civilisations extraterrestres suffisamment intelligentes pour capter nos messages et communiquer avec nous, ils n'ont peut-être pas des excellentes intentions. Il dit, on devrait peut-être se faire discret à l'humanité. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
C'est les visions qui s'affrontent là, à propos des extraterrestres. On le voit très bien dans la science-fiction aussi. Ils peuvent être représentés comme étant des alliés ou plutôt des ennemis. C'est très dur à dire. Je veux dire, pour même pour les humains, si on rencontre un humain, on ne sait pas si ça va être notre ami ou notre ennemi. Moi, je préfère penser que si la vie extraterrestre existe et que si un jour on réussit à communiquer, nous allons pouvoir partager puis grandir, les deux civilisations grandir de cette rencontre.
En autant qu'ils ne s'en viennent pas chez nous, par exemple, parce que dans l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'une civilisation plus avancée en rencontrait une autre, ça a mal viré. Ça a rarement, on va partager, on peut penser au colonialisme, on peut parler à toutes sortes de rencontres, au choc des civilisations. Fait que moi, je veux bien qu'on communique avec des extraterrestres, mais qu'on les invite pas chez nous. Parce que s'ils sont capables de se rendre ici avant qu'on aille chez eux, ça veut dire qu'ils sont plus avancés. Et là, l'histoire humaine, que je connais un peu mieux que l'histoire extraterrestre, moi, je suis pas sûr que c'est une bonne idée qu'il y a une civilisation plus avancée qui débarque chez nous.
Mais peut-être que, rendu là, cette civilisation plus avancée va être vraiment beaucoup plus avancée que ce que nous, on était et ce que nous, on est encore.
Ouais.
Et qu'on va pouvoir avoir un vrai partage et apprendre de cette civilisation-là.
Ouais, peut-être. On verra bien.
Donc, il faut garder un peu d'espoir, un petit peu d'optimisme quand même. Un peu de beauté, justement, pour rêver.
Oui, j'adore ça. Frédéric Baron, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
15h21, Frédéric Baron est conférencière. Elle est chargée de cours à l'Université de Montréal, experte en exoplanètes. Alors, il y a des nouvelles études qui arrivent. L'équation de Drake, comptez pas sur moi pour vous raconter ça. Mais ça évalue qu'il y a peut-être entre 4 et peut-être même 211 endroits. Ils ont trouvé des planètes ou exoplanètes où la vie pourrait apparaître selon ces calculs-là de probabilité.
Dans ce cas-ci, c'est des civilisations intelligentes, là, 4 et 211. Mais la vie, elle a pas mal.
Ah, ouais, t'as raison, faut que je précise. C'est vraiment des civilisations extraterrestres qui auraient pu apparaître sur, jusqu'à 200 planètes.
Donc, évoluer jusque-là, tu sais, parce que.
La vie, c'est large, sinon.
C'est ça, parce que ça peut être des bactéries, des bébelles de même, ça peut être bien plate.
Ouais, je comprends.
Mais, ce serait pas plate. Si on trouvait qu'il y avait vraiment des bactéries ailleurs, ce serait quand même une découverte incroyable.
Mais c'est moins excitant.
Mais comme le disait Madame Baron, j'ai écouté une vidéo passionnante là-dessus d'AstronoGeek, qui est un vulgarisateur en astrophysique sur YouTube, qui expliquait à quel point il y avait plusieurs épreuves, plusieurs étapes avant qu'une civilisation puisse atteindre le voyage supraluminique, c'est-à-dire être capable de traverser des vastes étendues galactiques, donc des plusieurs années-lumière. Mais d'abord, il y avait justement des catastrophes naturelles, de nombreuses catastrophes naturelles. Il y a eu plusieurs extinctions massives sur Terre, là. Si vous pensez que je suis les dinosaures, avant ça, là, des 90% d'espèces détruites par des cataclysmes, des changements climatiques et autres. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il faut que tu passes à travers différentes extinctions massives. Après ça, il faut que tu avances suffisamment dans le temps pour te rendre à un niveau qu'on pourrait appeler le niveau nucléaire, où là, ben, tu risques de t'auto-détruire parce que justement, tu es rendu avancé à un certain point. Donc, il faut que tu développes la sagesse après ça de ne pas utiliser la technologie pour t'auto-détruire. Puis après ça, que tu te rendes à un niveau où est-ce que justement, tu es capable de traverser des étendues dans l'espace.
Oui, mais l'argument est le même. Elle a bien dit, Mme Baron, là. C'est comme l'argument que c'est tellement un miracle que la Terre ait pu. La vie et puis apparaître sur la Terre, ça n'arrivera jamais ailleurs. Ça, quand tu connais 9 planètes, c'est une chose. Ouais. Même quand tu en connais 1000 ou 2000, mais là, elle le dit, là.
Il y a
tellement de planètes, là, on se limite à notre galaxie, puis on sait qu'il y a plein d'autres galaxies, que là, finalement, c'est un peu... Là, c'est l'inverse. Écoute, il y en a tellement que les conditions ont été réunies sur la Terre, il est possible que ces mêmes conditions-là aient été réunies avec la même distance d'une étoile, d'un soleil, etc., sur une autre planète.
Oui, ça, c'est sûr.
Maintenant, mais la grosse question, c'est est-ce qu'on peut communiquer avec eux?
Ben, c'est ça. Puis moi, ce que je me demande, c'est... Bon, évidemment, je pense pas que notre génération à nous, à Jean-Simon puis moi, on va voir ça de notre vivant, là, une communication entre eux. Mais est-ce que lesquels de nos futurs descendants vont le voir? Je sais pas si tu comprends. En quelle année on va avoir le premier contact, puis ces gens-là vont pouvoir vivre ça puis expérimenter ça?
Moi, je pense qu'il y a quand même des données un peu à l'expliquer, là. C'est, moi, je te dirais dans peut-être 50 000 ans, là. Si on se fie un peu, parce que la planète la plus plausible, juste envoyer un signal puis qu'ils reviennent, c'est des milliers d'années.
C'est ça.
Là.
Fait que mettons 50 000.
Ça fait juste 100 ans qu'on a commencé à émettre avec le programme SETI, là, les gros radars qui envoient un message radio. En passant, je sais pas c'est quoi le message de présentation.
Il y a des affaires très basiques dans plusieurs langues. Il y a des messages aussi qui ont été envoyés de sons marins, de baleines, de toutes sortes d'affaires. Pour essayer de faire une espèce de disque compact, entre guillemets, intersidéral.
Pour augmenter ses chances de pouvoir comprendre.
Oui, mais c'est pour qu'il y ait une espèce d'idée de ce qu'est cette planète-là. Là. Donc, c'est vraiment... Mais c'est passionnant comme domaine. Sauf que tu parles de 50 000 ans, Sylvain Élie, tu dis que ça va être dans combien de temps? J'ai écouté un TED Talk d'un astrophysicien qui, lui travaille au sein de SETI, puis ça date de 2012, et lui disait, moi, je suis persuadé qu'on va avoir des preuves d'une vie intelligente dans l'univers dans 12 ans. dans la prochaine
douzaine
d'années.
Mais qu'est-ce qu'une preuve, maintenant? Tu comprends?
Ben, une preuve, c'est des ondes
radio. Ça sera pas, OK.
Il y a un signal à un moment donné.
Mais ben, nous, on peut capter de quoi? Ouais. C'est si eux autres, mais là, ça voudrait dire qu'il y a une civilisation plus avancée que nous, qu'au lieu que nous autres, ça fait 100 ans qu'on émet des signaux radio. Peut-être qu'il y a une civilisation ailleurs, qu'eux autres, ça fait 50 000 ans qu'ils sont plus avancés que nous autres, puis ils ont commencé
ils ont
à envoyer.
À
fait que là, nous, on pourrait capter ce signal-là.
Et c'est arrivé à une reprise.
Si c'est ça,
c'est arrivé à une reprise. Oui, ben en fait, on n'a jamais eu la certitude de ça.
Ben oui,
mais Assétie, à un moment donné... Non, encore une fois, je te jure que c'est arrivé. On ne sait pas du tout si c'est effectivement une civilisation extraterrestre. Mais on avait placé un signal de réception radio qui correspond exactement à la fréquence des ondes radio qui pourrait arriver de grandes distances interstellaires. Donc, on avait placé ça, une espèce de fréquence, un certain nombre de décibels. Puis pendant des jours et des jours, les scientifiques sont restés écrasés devant l'écran à regarder l'aiguille bouger. Puis ça donnait rien. Puis s'il y avait rien d'intéressant. Puis à un moment donné, les scientifiques sont partis se coucher. Une belle nuit, il y a quelque part, il y a à peu près 20-25 ans, sont allés se coucher. Quand ils sont levés le lendemain matin, pendant à peu près une minute, puis le son existe en passant sur la reproduction du son, existe sur Internet. Là, encore une fois, c'est le même vulgarisateur scientifique dont je vous parle, c'est très, très fiable, j'ai vérifié après. Là. Sur cette fréquence-là exactement, il y a une séquence de bruits qui n'ont aucun rapport avec quoi que ce soit d'autre qu'ils peuvent imaginer dans l'espace, qui ressemble vraiment à l'émission d'une fréquence radio. Mais après cette minute-là, ça disparaît complètement. Les scientifiques étaient en train de dormir. Ça fait 40 ans en passant, Martin. C'est le signal WOW. Là. Ça s'appelle le signal WOW. Ça
fait
40 ans.
Ça fait 40 ans, là-dessus, puis il n'est jamais
revenu
après.
Il n'est jamais arrivé. C'est le seul signal qu'on a capté qui pourrait ressembler à une communication extraterrestre.
C'est au conditionnel.
C'est ça.
Pour moi, on est loin d'une preuve formelle d'une existence ailleurs, tout ça. Mais anyway, moi, je considère que ce serait une très mauvaise nouvelle. Il faut que ce soit eux qui captent notre message. Donc, il faut qu'on l'ait envoyé avant eux. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que si c'est nous qui le recevons en premier, ça veut dire qu'ils sont bien plus avancés que nous autres.
Ouais.
C'est pas bon signe. Honnêtement, là, si c'est ça, là, regarde, il ne faut pas que ça en vienne ici. Là. Moi, je ne crois pas à ça. Une civilisation, quand ça débarque et c'est supérieur à une autre, ça finit tout le temps mal. Ça a toujours mal fini. Quand des gens plus puissants rencontrent des gens moins puissants, c'est pas vrai, Madame Baron, je comprends, là. Mais plus de l'école optimiste, on va partager nos connaissances, puis tout ça. Non, ils vont nous dominer. Mais là, je parle en humain, à moins qu'eux autres aient vraiment surpassé ce stade-là, ce niveau-là un peu animal qu'on a en nous de la survie de toutes, que les espèces les plus puissantes finissent toujours par écraser, malheureusement, les plus faibles. Malheureusement. Remarque, même sur la Terre, ça va un petit peu mieux. Ça va un peu mieux depuis quelques années. Mais longtemps, c'était la loi du plus fort. Si on applique ça aux relations extraterrestres, et si on a reçu un signal d'eux autres, c'est pas bon.
Hey, en passant, il y a un énorme débat encore aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, dans la communauté scientifique sur le fameux signal WOW. T'as autant d'astrophysiciens qui croient que ça pourrait être un signal crédible que d'astrophysiciens qui pensent que, donc,
ben,
finalement,
c'est
des comètes. Non,
c'est
pas une preuve.
Mais c'est un débat qui est toujours actif au moment où on se parle. Par contre, j'ai juste tapé signal WOW dans Google, puis c'est des pages et des pages. Il y a même des conférences là-dessus.
Mais c'est la seule occurrence d'un signal qui pourrait peut-être être un signal extraterrestre. C'est la seule occurrence. Ils n'ont jamais rien capté d'autre qui pouvait ressembler à ça.